Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bumpy.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Ce mois-ci, épisode exceptionnel puisque nous n'allons pas vous parler d'un sport. Eh non, nous allons vous parler d'un art. Celui de sculpter son corps pour atteindre une symétrie et des proportions parfaites. Et non, il ne s'agit pas d'un épisode spécial régime et fitness. Nous allons aujourd'hui parler de culturisme ou bodybuilding en anglais. Et comment évoquer le culturisme sans évoquer l'une de ces figures phares qui a contribué à faire connaître cette pratique dans le monde entier?
Thibaut.
Non.
C'est moi. Enfin.
Pas Thibaut. Arnold Schwarzenegger. Schwarzy pour les intimes. Et ce soir, je suis accompagnée d'une équipe de choc pour façonner les formes parfaites de cet épisode. Vous l'avez entendu, je suis avec Younes. Bonjour Younes.
Salut tout le monde.
Et je suis également avec Thibaut.
Bonsoir à tous mes amis culturistes.
Et enfin avec Chloé.
Mais je suis là, mais si on parle pas de Thibaut, je vous avoue que je vais pas rester longtemps du coup.
C'est vrai, elle vient de mettre son manteau.
Mais si, si,
je peux vous le dire, c'est vrai.
C'est le cœur de l'épisode.
Alors, avant de commencer notre histoire du culturisme, je vous propose d'écouter un petit extrait. Il s'agit d'un extrait d'un documentaire d'Arte, qui est très bien, qu'on vous conseille, qui s'appelle « Tous musclés, la loi du muscle », extrait.
C'est une esthétique terrassante. C'est une esthétique dont on cherche à terrasser. Et c'est effectivement très souvent, hélas, une esthétique du bigger is better, donc plus c'est gros, mieux c'est.
Ce qu'on a à faire comme aujourd'hui, c'est effectivement à des formes de dépassement inouïes. Parce que le simple aspect des corps, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent historique, hein, bien évidemment. Si on met George Winship à côté des messieurs univers des années 80 ou 90, on dirait Zavorton. Donc il y a quelque chose qui s'est passé effectivement d'étrange, hein, dans le royaume du muscle.
Il y en a qui vont dire c'est de la gonflette, c'est ci, c'est ça, mais bon, la gonflette, vous savez, quand les athlètes ils soulèvent des tonnes et des tonnes de fonte, je vois pas trop où il y a la gonflette. Hein.
En fait, peut-être que l'idéal du bodybuilding, c'est vraiment l'exploration des limites et d'essayer d'aller jusqu'au bout du développement humain, voire post-humain.
Dans les gymnases, on entend cette phrase américaine « The sky is the limit », hein, le ciel est la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Quoi. On peut aller aussi haut qu'on veut, pourvu qu'on y mette l'application qui convient.
Alors,
moi, je trouve qu'il a tout bien dit le monsieur là quand il a parlé tout à l'heure.
Oui, bah, regardez le documentaire.
La complète. Ouais, regardez le documentaire.
Foutez-nous la peine.
Foutez-nous la peine, on va se coucher.
Bonne soirée.
Non, non, alors pour commencer, j'aimerais bien vous demander, messieurs, dames, quel est votre rapport à la salle de gym? Est-ce que vous poussez de la fonte, Chloé?
Bonjour. Alors moi je sais que ça va surprendre, mais pendant un an et demi j'ai fait du crossfit. Alors on redéfinit très
c'est
rapidement.
Pas vrai. C'est quoi le crossfit, Chloé?
C'est quoi que vous me posez comme question? Ben, je vais vous répondre.
Oui.
Le crossfit, du coup, c'est une discipline sportive qui s'inspire des entraînements des agents du Mossad.
Voilà.
Donc clairement,
ça c'est un peu rude.
Je suis vraiment la personne faite pour ça, clairement.
Bah ouais, clairement.
Et ouais. Ouais, et c'est un mélange de gymnastique, de cardio, de musculation. D'utilisation de machines au poids du corps dans le but de vomir partout à la fin.
Ah. Et ça marche très bien.
Bah, ça m'a forgé, écoute. Hein.
Tu as vomi souvent?
De l'eau, beaucoup d'eau.
Quel enfer, quelle horreur. Et toi, Younes, t'en pousses de la fonte, non?
Ah bah, tous les jours.
Ouais.
Et ouais, depuis ouais. 2 minutes. Non, bah, par contre, je viens de définir ma catégorie Avorton.
C'est une belle catégorie. C'est en dessous du poids mouche, en fait.
Exactement. Et du coup, ça me renvoie finalement à ma condition. Non, la salle, très sincèrement, ne m'a plus apporté que de la déprime qu'autre chose. En fait, le peu de fois où je m'y suis inscrit, je me suis retrouvé finalement à être un peu paumé à faire du vélo. Voilà. Et finalement, à pas trouver finalement
ma place.
Oh. Et puis l'endroit lui-même, en fait.
Ça
m'a pas plu du tout. J'ai pas accroché. Après, je comprends après le rapport à l'addiction qu'on peut avoir aussi avec la salle et peut-être même le rapport un peu social de la chose.
Ouais. Après, quand tu sais quoi travailler, c'est plus simple aussi.
Bien sûr. Non, mais après, idéalement, il faut être accompagné.
Au moins au départ, qu'on t'explique ce qu'il faut faire pour atteindre tes objectifs.
Ami bienveillant, en fait. Voilà, tout simplement.
C'est vrai. Et Thibaut, serais-tu cet ami
J'exècre la salle. Je l'exècre d'abord.
Sois poli et respectueux envers tout et chacun.
Alors, je vais vous raconter. Alors, j'ai passé un an à Dublin. J'ai été étudiant à Dublin.
C'est pas vrai.
Et à Dublin, dans mon université, il y avait une grande salle de sport. Et c'était vraiment culturel, en fait. Les mecs, ils y allaient une, deux, trois, quatre fois par semaine. Et j'ai un petit peu compris l'addiction qu'il pouvait y avoir à aller à la salle. Parce qu'à mon petit niveau, je me dis, ah ouais, c'est marrant quand même, en un mois, deux mois, trois mois, on se sent un peu plus fort.
Et toi, le Frenchie en terre irlandaise, t'as pris finalement cette habitude.
J'ai trouvé ça assez amusant, mais parce que c'était social aussi. Mmh. Mais pour moi, ça doit quand même rester un moyen pour autre chose. En l'occurrence, c'était un moyen pour les mecs, pour jouer
pour
dans l'équipe de rugby.
Pour devenir un gros beau gosse.
Aspirateur sur la plage.
Exactement. les fameuses plages irlandaises.
Et je sais pas si tu te rappelles, Thibaut, on est allé un peu à la salle ensemble quand on avait au Québec ensemble.
Oui, et là c'était un désastre. En revanche, nous étions un désastre.
On n'était pas très sérieux.
Et les Québécois étaient aussi très forts, j'avais l'impression.
Aux États-Unis, au Canada, il y a des endroits où ils sont assez dingos, notamment
en
Californie.
Est-ce que tu aimes la salle?
Moi, j'ai fréquenté la salle un temps. Je faisais des cours un peu là de fitness, de pumping, le pumping où tu te muscles, tu as des poids, etc. Et tu fais des squats. Et un jour, j'ai découvert le yoga et je suis beaucoup plus musclée depuis que je fais du yoga qu'en faisant pumping. Mais peut-être parce que j'en fais plus aussi et depuis plus longtemps et de manière plus sérieuse. Et je vous conseille le yoga. Un jour, on fera un épisode sur le yoga.
Ah oui, j'ai hâte.
Ce qui m'amène à cette question, le yoga est-il un sport? Et toute prof de yoga qui se respecte vous dira que non.
Younes vient de dire que c'était une secte en antenne. Mais je sais pas.
Je confesse.
Bravo. Il y a effectivement un documentaire Netflix en ce moment sur Bikram.
Oui.
Mais là, c'est pas pareil. Là,
non, mais ça, yoga ça, Bikram, ça c'est un peu yoga vénère, c'est ça?
Non, en fait, c'est la personne qui s'appelle Bikram.
Le nom du monsieur.
Mais il en a fait une marque et c'est un yoga dans des salles très chaudes avec des enchaînements très précis. Sauf qu'il
a un rapport très tactile avec la jante féminine.
Plutôt agresseur.
Voilà, il y a des sales histoires. Voilà,
c'est pas le sujet.
Mais parlons culturisme.
Recentre.
Exactement, parce que le yoga est-il un sport? On a un peu la même question sur le culturisme est-il un sport? Mais avant de vous poser cette question hautement philosophique, Chloé, peut-être tu peux nous dire qui est le premier inspirateur du culturisme dans l'histoire du monde?
Avant moi, donc.
Avant toi,
j'ai aussi appris du coup que ce n'était pas Marc Marquez qui était le représentant officiel de tout ça.
Zut.
Pourtant, il a des bras. Mais non, il faut qu'on remonte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. J'ai entendu contrairement à Younes, je crois.
J'ai dit contrairement à moi dans ma barbe en référence à une blague que les auditeurs de 2 heures de perdu auront.
Ah oui,
voilà.
2 heures de perdu, qu'est-ce que c'est?
On fait du cross podcast. Relire Tintin, c'est important.
Et sinon, remontons avant 2 heures de perdu. Remontons jusqu'à la Grèce antique, puisque de toute façon le mythe qu'on connaît tous, c'est Hercule, demi-dieu mais quand même 50% homme. Et avec ça, on a une vraie personne qui s'appelle Milon de Crotone, qui était donc un athlète du 6e siècle. Avant Jésus-Christ, pardon. Qui était donc vraiment connu parce que son délire, c'était de prendre des animaux de la ferme, alors plutôt des veaux et des taureaux. Poules. Et
chacun
et
son délire. Moi, je soulève des poussins, par exemple. Ouais.
Moi, j'en ai tué, donc.
Et puis, on le verra par la suite. Horrible, Chloé. On verra par la suite, mais toutes ces statues de l'antiquité grecque vont inspirer, vont être les modèles, finalement, des culturistes modernes après.
Le fameux « Mens sana in corpore sano ».
Qu'est-ce que tu me dis là?
C'est comme mes baskets ASICS.
Il voulait nous placer absolument ASICS.
Bah, c'est notre
qu'il
sponsor.
Il a signé un gros contrat avec eux. C'est fou.
C'est notre sponsor. Pardon.
Un corps sain dans un
esprit.
Un esprit sain.
Un esprit sain dans un corps sain plutôt.
Oui, c'est
mieux dans
le
sens. Ça marche dans les deux sens.
Exactement.
Mais on retrouve aussi des choses, des disciplines en fait en Inde et en Égypte. Alors par exemple en Inde, pour le 11e siècle, on a trouvé qu'en fait ils arrivaient à se servir de poids sculptés dans la pierre pour du coup faire de la musculation à leur niveau. Mais il y a également de la pratique du yoga
Et bah oui, ah,
on y vient.
Et bah oui, les Indiens, voilà. Bien sûr, ils faisaient un peu les deux.
Pas étonnant.
Alors, le culturisme en soi, c'est quoi en fait le but du culturisme? Parce que c'est ça quand même qui est intriguant.
Alors, c'est d'être très fort, très très fort, d'avoir des super muscles, de les montrer, de faire des positions et de faire le malin, le coq avec des gros muscles, mais en respectant une certaine esthétique. Donc, c'est une alliance de force pure et d'esthétique.
Mmh. C'est donc pas c'est comme l'haltérophilie, par exemple. L'haltérophilie,
c'est l'haltérophilie et le patinage artistique à la fois.
Mais en fait, l'effort physique du culturisme se fait avant la compétition.
Oui, et la compétition en elle-même
juge les efforts que tu as faits durant tout ton entraînement.
Et les conséquences qu'elles ont eues sur ton corps, puisque tu dois avoir un corps avec une grosse masse musculaire.
Il y a des critères, j'imagine, c'est la symétrie notamment, ce genre de choses. Et puis la
pose. C'est le plus beau gosse.
Ah ouais, c'est le plus beau gosse de tous.
Non, mais
ça, c'est la note artistique de Chloé. C'est le plus beau gosse.
Bah, en vrai, techniquement, ça joue, mais c'est vrai que c'est plutôt les muscles. Est-ce qu'ils vont être bien proportionnés? Est-ce qu'ils vont être symétriques? Est-ce que le haut est autant travaillé que le bas? Est-ce que la personne reste souple? Parce qu'en fait, mine de rien, quand on fait gonfler les muscles, on perd de souplesse, on perd de la grâce.
Oui, Thibaut, tu connais quelque chose.
Moi, j'ai pas mal perdu.
Le grand écart, tu arrives plus, non?
Mais ce qui est marrant, c'est la pose, la posture. Ouais. C'est ça qu'on juge aussi.
Ouais.
Et je trouve ça fascinant parce qu'on les voit là tous. De l'extérieur, ils ont tous autant de muscles les uns que les autres, en fait. Enfin, moi, je vois pas la différence. Mais ça se joue sur des détails. Et ces détails, c'est la posture, c'est la façon de montrer ses muscles, c'est la pose. Mais c'est aussi l'huile qu'on va mettre sur son corps.
C'est quand même quelque chose, parce que le tannage est quand même quelque chose qui a évolué aussi dans le temps. Parce qu'on voit
Le tannage?
Si votre tannage se rapporte à votre plumage.
Voilà, exactement, vous connaissez la suite.
Non, mais c'est d'avoir, la couleur.
Un teint hâlé, en fait, qui ramène finalement à ces corps que l'on a exhibés sur la plage depuis les années 50 et jusqu'à l'ère moderne, les années 80, où dans lesquelles en fait on était carrément cuivré, et donc on a des corps complètement cuivrés dans les compétitions de culturisme
et un slip cuivré.
Alors, tu peux choisir la couleur que tu veux, mais c'est marrant parce que souvent la tête n'a pas la couleur du reste du corps.
C'est vrai.
C'est vrai que c'est posé là.
En tout cas, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est est-ce que c'est un sport? Ça s'en rapproche quand même par certains côtés. C'est des mecs qui vont passer 8 heures dans la salle de sport à faire des exercices.
Il y a un effort physique.
Ils vont avoir une alimentation extrêmement
stricte,
avec beaucoup de protéines forcément, parce qu'il faut gagner
nourrir ce muscle de
la masse.
Il y a un programme de compétition pour ceux qui font des compétitions. En tout cas, il y a un programme à tenir sur des semaines et des semaines pour atteindre un niveau donné. Donc ça ressemble au programme du sportif de haut niveau. On a cité l'haltérophilie. Au final, l'haltérophilie est un sport et on est là dans la force pure puisqu'on doit soulever un poids. Le culturiste peut dire, moi je fais de l'haltérophilie mais je fais bien d'autres choses, donc je suis encore plus qu'un sport.
La compétition ne juge pas un poids que tu soulèves.
Ouais, c'est pas le rapport explosif de l'effort de l'haltérophilie.
Ça, je trouve ça intéressant, c'est aussi que finalement la compétition, il y a beaucoup de culturistes qui ne font pas de compétition, en fait c'est réservé vraiment aux meilleurs des meilleurs.
Oui.
Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est dit d'ailleurs, je crois, dans le documentaire d'Arte, qui est que c'est aussi quelque chose qui est très accessible finalement. Et puis même aujourd'hui, vous savez, beaucoup dans la rue, vous avez des endroits où vous pouvez faire des bars, soulever des trucs dans la rue, accessible à tous.
Alors ça vient doucement, mais sûrement en France, mais effectivement, c'est plutôt une culture extérieure à la base, et ça vient surtout de Californie.
Ouais.
On voit ça aussi au Brésil, sur les plages. Enfin, en tout cas, dès qu'on a une culture balnéaire, on a ce rapport un petit peu
au
corps. Et effectivement, ça a à voir aussi avec ça.
Et on prend un peu des trucs aussi, parfois.
Alors, c'est le sujet, effectivement, comme dans beaucoup de sports, le sujet qui fâche, c'est...
Non.
Voyons. Non. Pas eux, surtout pas eux. Non, le dopage, évidemment.
Enfin, c'est les stéroïdes qui permettent...
Et les anabolisants qui sont effectivement une façon d'aller plus vite et d'aller plus loin.
Et forcément, il y a des sports plus exposés que d'autres. Et quand on est sur... on vient de dire que c'était pas seulement du muscle pur, mais ça l'est aussi. Donc, c'est plus exposé que quand vous êtes escrimeur, par exemple, évidemment. Mais pas plus qu'un haltérophile ou qu'un coureur de 100 mètres qui est dans une performance, lui aussi, assez pure. Oui, il y a du dopage dans ce sport ou dans cette discipline.
En tout cas, il fait partie des sports qui cristallisent un petit peu les suspicions, comme le vélo. Et...
C'est nécessaire en plus, parce que tu ne peux pas atteindre de tels résultats. Enfin,
a priori,
ça entraîne un espèce de mouvement en chaîne de « il faut atteindre ce stade-là ». Et du coup, comme tu deviens de plus en plus gros, les autres doivent aussi en prendre de plus en plus. Donc, c'est presque accepté, finalement.
Mais en revanche, si tu vois dans le sport aussi cette dimension... même pas technique, parce qu'il y a de la technique dans le culturisme, mais cette dimension magique du talent, du eh ben là, je trouve qu'on s'en échappe un peu avec le culturisme, mais on peut me le dire d'autres sports aussi.
Mais il y a ce côté presque, c'est ce qu'on disait, presque artistique.
C'est ce qui m'emmène, exactement.
C'est artistique, un mode de vie. Et puis, on le voit dans le documentaire Pumping Iron, dont on parlera tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement complet, en fait, puisque la première scène, c'est Schwarzenegger qui répète avec une ballerine danseuse étoile qui lui montre comment bien se tenir. C'est assez fascinant.
Et donc là, ça montre le nombre de professionnels avec lesquels il peut être amené à travailler pour s'améliorer dans sa discipline. Ce qui montre que c'est très complet.
Oui, après, précisément, je pense que c'est une initiative, même à titre personnel, d'Arnold Schwarzenegger, ce qui montre aussi son regard avant-gardiste aussi sur une discipline et peut-être côté visionnaire qui lui donne un petit temps d'avance sur les autres à son époque.
Et cette envie d'aller toujours plus loin.
Ce petit mélange des genres où on a quelque chose finalement qu'on relie plus à la féminité d'avoir un corps parfait, qui va plutôt être une injonction envers les femmes, là, que les culturistes vont se donner. Et peut-être une dernière chose, avant de vous mettre un petit extrait, que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de culturistes qui expliquent aussi que c'est une forme de revanche sur leur jeunesse, où ils étaient des petits avortons,
Ils ont fait
humiliés.
Un peu victimisés. Ouais.
La catégorie,
ils faisaient accrocher au porte-manteau.
Oh, l'enfer. Il s'est fait voler l'argent du goûter.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est leur revanche, mais du coup, cette revanche devient passionnante, mais elle est plus que ça. En fait, ils peuvent plus s'arrêter. C'est une drogue. On l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, ils parlent d'esthétique terrassante. Le choix des mots, il est fort, il est hyper violent en fait, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de la drogue, mais comme le sport de haut niveau là pour le coup.
Mais il y a un tel changement, une telle transformation physique, qu'il y a forcément une modification de la psyché. Et dans le documentaire Arte, dont on a entendu l'extrait, qui est disponible encore d'ailleurs en ligne sur
YouTube,
arte.tv ou sur YouTube, on a effectivement ce chapitre qui est abordé et qui est très bien abordé justement sur la modification mentale en fait. Grâce ou à cause de ce sport.
Oui. Complètement.
Ou pas.
Et pour conclure cette petite intro sur le culturisme, je vous propose un petit extrait.
C'est pas des muscles qui servent à courir, c'est pas des muscles qui servent à lancer, c'est pas des muscles qui servent à pousser, c'est pas des muscles qui servent à se battre. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à montrer ce que c'est qu'un homme. En tout cas, ce qu'on imagine ce qu'un homme pourrait être.
Il y a vraiment la volonté d'incarner, littéralement incarner, un idéal de beauté qui, plus ou moins hérité de l'Antiquité grecque, définit très clairement que le beau est le reflet du bien et du bon. Et il y a quelque chose de quasiment mathématique dans une approche très rationnelle et raisonnée du beau. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans la statuaire antique que chez Léonard de Vinci.
J'aime bien, je trouve ça intéressant, ta réflexion de dire c'est un muscle. Pourquoi c'est pas pour lancer, etc. C'est vraiment pour montrer.
Chloé,
c'est vraiment une anecdote pas ouf, mais en ce moment je regarde mal.
Tu la vends mal.
Je la vends mal, mais après à la fin tout le monde me dit waouh, c'est fou.
Une façon de. Ouais, vas-y.
Mais je regarde Malcolm en ce moment et j'avais oublié, mais il y a un épisode où Hal devient super pote avec justement une bande de culturistes qui s'entraînent à l'extérieur et ils ont de la difficulté à faire plein de choses, et à un moment il les utilise un peu pour devenir il doit faire pression sur je sais plus qui, mais c'est juste drôle de les avoir tous alignés et marcher, parce que t'en as vraiment qui arrivent pas à faire un pas l'un devant l'autre, et c'est là où il dit c'est pas des muscles qui servent en fait, c'est vraiment que des muscles
pour
beaux
montrer.
Et esthétiques.
Ouais,
c'est assez impressionnant. Alors effectivement, il évoque aussi Léonard de Vinci, et ce qui moi m'a impressionné, c'est le parcours en fait de compétiteur d'un culturiste, c'est l'étape de la sèche.
Ah ouais.
Et donc sécher, c'est montrer en fait la fibre musculaire.
Le poisson.
Et voilà, exactement. C'est très bon d'ailleurs.
C'est d'avoir plus de gras, c'est ça aussi.
De supprimer complètement le gras et d'avoir uniquement la peau sur pas sur les os.
Pas sur les os, mais sur le muscle.
Mais sur le muscle.
Ouais, c'est vrai.
Et ça m'a fait penser aux écorchés de Léonard de Vinci, les modèles médicaux en fait qui ont servi pour pouvoir justement dessiner l'anatomie humaine.
C'est marrant parce que tu dis ce muscle, il ne sert à rien. Enfin, il est esthétique,
Il est plus handicapant.
Il est handicapant. Je peux pas l'utiliser pour autre chose. Alors que dans le sport de haut niveau ou les autres sports, souvent le muscle est un moyen pour accomplir quelque chose. Là, ça devient
une fin
le muscle en lui-même et la fin.
Oui, et d'un autre côté, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des culturistes un peu âgés et qui ont plutôt bien vieilli, en fait. Enfin, c'est pas que
certains
mauvais.
Certains attendent alors après prendre 40 ans hein, avant de mourir.
Bravo Thibaut, je vais devoir te couper. Non mais les stéroïdes ça peut être très mauvais parce que ça peut te faire des problèmes cardiaques, etc. Donc ça c'est pas terrible. Mais globalement c'est pas forcément qu'une mauvaise hygiène de vie. Il y en a qui vieillissent plutôt pas mal. Peut-être qu'on peut dire assez rapidement quelques mots du culturisme moderne. Donc au départ, hein, on a surtout en fait des phénomènes de foire, des hommes qui font des démonstrations de force, ils soulèvent des animaux, ils tirent des charrettes, mais on n'a pas forcément la volonté d'améliorer son esthétique physique. Le but, c'est pas d'être beau, parfait, c'est plutôt de montrer qu'on est fort.
Et de créer un exploit.
De créer l'exploit, exactement. Et ça va changer avec un homme. J'aimerais que vous me parliez de cet homme qui est considéré comme le père fondateur du culturisme moderne. Il s'agit d'Eugène Sandow. Est-ce que Chloé, tu peux nous en dire quelques mots ?
Ben, on va tenter. Mais oui, effectivement, on considère du coup Eugène, j'adore ce prénom déjà, on le considère comme le père du culturisme. Alors, je ne sais pas si c'est un peu gros de dire ça ou pas, tu vois, mais effectivement, c'est une figure importante du culturisme moderne. J'ai plus du tout les dates. Mais
en gros, quand on parle de culturisme moderne, c'est la seconde partie du 19e siècle.
Exactement.
À peu près.
Ouais. Et lui, du coup, inspiré, il s'est beaucoup, du coup, comme on disait, inspiré de toutes ces statues antiques qu'on voyait. Et lui, du coup, qui voyait en Italie, parce qu'en fait, avant, il faisait partie d'une famille de marchands. Donc en fait, Eugène, il voyageait énormément, et principalement sur des marchés. Donc c'est, je pense, à cette occasion qu'il a été confronté à toutes ces créatures un petit peu de foire, donc qui lui a donné envie de lui faire ses propres démonstrations. Il a été repéré par un impresario, il est parti aux États-Unis.
J'aime bien ce mot, impresario.
Ah, moi aussi,
j'aime bien.
Il me fait rêver tout de suite.
Moi aussi, je rêve. S'il y a un impresario nous écoute, on est disponible. Je ne sais pas pourquoi.
Mais oui, moi, je suis disponible.
Et je pense que Eugène, si on lui avait posé la question, peut-être que lui, il aurait plus répondu que le culturisme est un art, parce que lui cherchait surtout le côté esthétique du corbeau.
Exactement, c'est le premier c'est l'un des premiers qui va instaurer cette dimension esthétique et il va créer des premiers programmes d'entraînement pour ne pas développer que la force mais aussi la beauté du corps. Et c'est marrant parce que en fait Eugène Sandow si on regarde des photos de lui, il va avoir des petites feuilles qui cachent son sexe, mais un côté très je mets feuilles, presque un peu stripteaseur, un peu sexy. Enfin, c'est assez marrant en fait.
On est presque sur des images un peu picturales qu'on retrouverait dans différents musées. Et effectivement, comme tu disais, Chloé, je pense que ses voyages et notamment les statues qu'il a pu croiser en Italie. Ou peut-être en Grèce aussi, ont profondément marqué en fait cette culture finalement qui est moderne aujourd'hui, mais qui s'inspire clairement de l'Antiquité. Quoi.
Après, je vous conseille de regarder des images de lui, elles n'ont rien à voir avec les culturistes de nos jours. Il a l'air presque un peu ridicule, enfin,
freluquet.
Mais c'est ce qui se dit dans le tout premier extrait qu'on a mis dans l'intro.
Ouais.
Tu regardes même ceux en fait, des années 50, 60, les idoles de Schwarzenegger sont ridicules à côté de Schwarzenegger, même aujourd'hui. Ouais.
Des avortons.
Ouais. À côté, Milon de Croton, je peux vous dire, c'est un petit bonhomme.
En tout cas, Eugène, il a introduit cette dimension esthétique. Et alors ensuite, on va un peu accélérer, on va passer dans l'après-guerre, parce que c'est là qu'un certain Joe Wider va développer, démocratiser le culturisme et créer les premières vraies compétitions.
C'est ça,
en fait.
Et pour développer véritablement un sport ou une discipline, qu'est-ce qu'on fait ? On crée souvent une fédération internationale, c'est ce qu'il va faire.
On fédère autour de l'idée,
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Il crée ensuite le concours que les gens souvent connaissent quand on parle de culturisme, c'est le Mister Olympia. Olympia. Rien à voir avec la salle de spectacle pour ceux qui se sont endormis depuis 30 ans.
Non, et il faut le dire parce qu'en fait, on connaît deux choses. On connaît Mister Univers, et là, c'est le côté amateur du culturisme, et Mister Olympia, c'est le côté professionnel
Exactement.
Du culturisme.
Et ça, c'est donc les années 60, en gros.
Ouais,
donc, c'est la plus haute distinction, comme l'a dit Sarah, dans le culturisme professionnel.
Exactement.
Et,
Mister Univers, c'est la version. Amateur.
Alors,
Amateur.
Younes vient de s'endormir juste avant, j'ai l'impression, parce que je viens de le dire.
Donc, par exemple,
comme ça, c'est bien pour ceux qui sont endormis comme Younes.
Exactement, voilà.
Non, mais et pourquoi on parle de ce personnage aussi ? C'est parce que c'est le mentor de Schwarzenegger.
Exactement.
Et qu'on va beaucoup vous parler de Schwarzenegger après, puisqu'il a marqué ce sport ou cette discipline.
Tu trouves ?
Je sais que c'est un avis vraiment très à part, mais
il a utilisé un outil très puissant qui s'appelle Hollywood.
Non, et puis le petit Joe, il va aussi développer de la presse spécialisée culturiste. Voilà, enfin, il va vraiment un peu faire en sorte que ce sport, oui, si c'est un sport, va gagner à la fois des adeptes. Les salles d'entraînement vont devenir de plus en plus nombreuses, et on peut écouter un petit reportage qui date de 77 et qui montre que le phénomène a pris un peu d'ampleur.
Et puis, sport encore, même si certains, de façon un peu péjorative, parlent de gonflette, le week-end dernier à Paris se sont disputés les championnats du monde de culturisme. Sculpter son corps pour ressembler à une statue grecque ou romaine, cela ressemble souvent à une performance. Les culturistes n'admettent pas que l'on se gausse d'eux à ce sujet.
20 000 culturistes en France, sans doute les sportifs les plus ridiculisés.
Quand on vous voit sur une plage, les gens réagissent comment ?
Il y a beaucoup de gens qui réagissent, ils voudraient être comme ça. Il y a ceux qui disent « Oh, c'est de la gonflette », alors ce sont les jaloux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils disaient « Si jamais je pouvais aller me coucher et le lendemain me réveiller comme ça, ils seraient très heureux. »
Les mauvaises langues disent que les culturistes ont des gros muscles mais des cervelles d'oiseaux.
Ben écoutez, vous savez, quand on fait du sport, on va pas à l'école, hein, on va pas. Pendant qu'on fait le sport, on va pas à l'école. Donc si quelqu'un commence la culture physique qui a une cervelle d'oiseau, il reste une cervelle d'oiseau. Mais si un ingénieur ou bien un docteur, etc., fait la culture physique, sa cervelle ne change pas. Hein.
Roi de la gonflette, les culturistes, ce n'est pas évident. Serge Mubret soulève ici 180 kilos. Il a 40 ans et s'entraîne 3 heures chaque jour. Serge Mubret est professionnel et un des rares Français à vivre de ce sport.
Moi, je dois dire que... Enfin, j'ai bien aimé préparer cet épisode, mais que je suis ressortie un peu circonspecte. Enfin, j'arrive pas trop à savoir que penser de cette passion où il y a à la fois quelque chose de très complet, un dévouement total que je peux admirer.
Et en même temps, c'est un peu flippant.
Et un peu flippant quand même.
Ouais. Il y a aussi ce rapport un petit peu des sports qui font qu'une vague d'amateurs en fait crée finalement le phénomène.
Ouais.
Et effectivement, la question que je me posais, c'était tout simplement, mais est-ce qu'on arrive, à part les grandes stars, à gagner sa vie en faisant ce sport ?
Mais c'est peut-être pas le but. Après, il faut s'entraîner beaucoup, mais tu le fais aussi. Enfin, ils le disent pour eux et pour leur
hygiène de base. Il faut que tu commences pour toi, et après, si tu sens que tu as les compétences et que tu montes en compétition.
Regarde, Chloé, au début, elle vivait pas du crossfit.
Non.
Ouais, maintenant, ça va beaucoup mieux.
T'es multimillionnaire.
Mais ça a mis 2-3 ans avant vraiment de se décanter. Donc, effectivement, il faut un petit peu de patience.
Ça met du temps. Ouais.
Alors. Avant de rentrer dans l'histoire du petit Arnold, je voulais quand même qu'on parle un tout petit peu, mais rapidement, de Mister Olympia, qui est donc cette grande compétition. Au tout début, il n'y avait qu'une seule catégorie. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Il y en a 4 dans les catégories masculines. Alors, je ne sais pas si on est obligé de toutes les faire, mais on peut citer donc la principale, qui est le Bodybuilding Open. Donc ça, c'est la catégorie ultime, c'est les plus gros compétiteurs. Et par exemple, moi j'ai trouvé ça amusant, ils en ont créé une en 2011 qui est la 212 Olympia. Donc 212, c'est 212 pounds parce que c'est des compétiteurs qui pèsent au maximum 95 kilos à peu près et qui doivent mesurer moins de 1m66.
Ah, c'est pour Mickaël.
C'est pas vrai. Mais parce que les petits étaient très désavantagés dans la catégorie suprême en fait.
Et rien que le fait de créer ces catégories, c'est aussi une manière de se professionnaliser sur le schéma de la boxe ou d'autres compétitions. C'est assez marrant qu'ils en soient arrivés là. Ça veut dire aussi que ça a son petit succès et que des gens à petite taille s'intéressent beaucoup plus en plus à la discipline.
Forcément, si c'est un petit succès.
Mais tout le monde a un peu sa chance. Il y a même une catégorie bikini, donc à ce stade-là.
Pour les femmes. Les femmes.
Évidemment, c'est que pour les femmes. Évidemment, ça nous étonnait. Bon. Non, pas du tout.
Après, les hommes sont en petit slip, donc d'un autre côté. Enfin, pas tous, tu me diras. Il y a la catégorie. Justement, ils ont créé des catégories plus récentes.
Il y a la catégorie pantalon.
Non, mais en fait, la catégorie men's physique qui a été créée en 2012. Et là, en fait, on juge pas les jambes. Donc, ils ont un peu des caleçons. On va vraiment juger surtout le haut du corps permet d'avoir des gens un peu moins complets.
Ça nous plaît moins.
Et comme tu disais, maintenant il y a des prix, Mister et Mrs Olympia, et il y a différentes catégories. Alors il y a Miss Bikini, Figure, Fitness, Women's Physique.
Fitness enfant.
Mais pas Mister Olympia, ça.
Il y a même la catégorie couple.
Oui, mais ça, c'est dans d'autres compétitions. Ah. Et c'est vrai que de manière...
Il suit rien, Younes.
Non, il suit rien du tout. Non, non, mais je trouve que d'une certaine manière, parce que je pense qu'on y est moins habitué non plus, et donc on a un peu des stéréotypes encore plus forts, mais c'est encore plus fou de voir ces femmes avec ces muscles surdéveloppés que les hommes. Enfin, c'est encore, enfin, c'est des images qui imprègnent encore plus, je trouve.
Bah, c'est vrai que dans le culturisme, il y a une espèce de recherche de l'ultime virilité, de l'homme fort par excellence. De... C'est pour ça que je suis un peu perdue parce que c'est marrant, ces muscles ne servent pas à grand chose quand ils sont trop développés. Mais en même temps, ça amène une espèce d'image de l'homme fort par excellence qui peut, ouais, te défendre et tout.
Ça
machin.
Doit bien aider à resserrer un évier en cas de fuite. On aime ça.
Eh bah, ça dépend parce que tu peux pas franchement te baisser.
Non, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas le rapport fonctionnel aux muscles. Mais le côté hypertrophie des muscles chez les hommes choqué dans les années 80, ouais, comme peut-être tout récemment il choque chez les femmes, mais finalement on va s'y faire.
On va s'y habituer.
On va s'y faire.
Est-ce que tu penses qu'ils sont forts au bras de fer, Sarah?
Je pense qu'ils me battent.
J'ai pas envie d'essayer, tu vois.
Ouais, vraiment pas.
Non, mais parce qu'on dit c'est pas fonctionnel, mais peut-être ça l'est un peu.
Oui, au bras de fer, à mon avis, ouais, oui.
Et puis t'as des vrais témoignages de femmes, en tout cas, qui pratiquent le culturisme et qui disent que c'est une manière d'exprimer leur féminité à elles aussi. Et donc c'est quand même assez intéressant.
Après, tu nous as parlé un petit peu des différentes disciplines. On peut peut-être revenir rapidement sur ce qu'est un concours. Ce qui se passe dans un concours.
Dis-nous, qu'est-ce qui se passe dans un concours?
Qu'est-ce qui se passe dans un concours? Ils arrivent, les mecs. Ouais. Les meufs aussi. Ouais. Tout le monde arrive.
Enfin, c'est pas encore mixte. Hein. Enfin, c'est les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes.
Les hommes arrivent. Et là, le but, c'est donc d'une part de montrer le plus de détails musculaires sur son corps. Ouais. C'est pour ça. Tu as parlé tout à l'heure de sèche, de sécher.
Oui, poisson.
Oui, le poisson, je suis content qu'on soit...
Comme la viande des grisons, qu'on sèche au soleil.
Oui, tout à fait. On est parti très loin. Et donc là, les compétiteurs, les bodybuilders, ils doivent avoir les épaules larges, une taille étroite, ils doivent montrer qu'ils ont des jambes longues, un buste court. Enfin, bon, y a vraiment, ça doit répondre à des codes relativement précis.
Oui.
Ils font ce qu'on appelle des rondes.
Oui.
Et dans ces rondes, quand ils arrivent, c'est là où vous avez peut-être cette image en tête des poses qu'ils font. Il y a 7 poses obligatoires.
Ouais.
On compare ensuite les athlètes entre eux à partir de ces poses. Les athlètes sont toujours pieds nus. C'est assez marrant. Enfin, on voit vraiment que c'est codifié de manière extrêmement précise et c'est drôle. Et il y a donc des catégories de poids corporel, on l'a évoqué.
Au plus proche des statuts, au final. Hein.
Et, et ce qui est marrant, c'est qu'il va y avoir, selon les catégories, des figures imposées, d'autres vont avoir des figures libres et qu'on va vraiment appeler en fait des chorégraphies.
Et là, on a de la musique. On a de la musique, ouais.
On réemprunte au vocabulaire de la danse.
Maintenant, on passe à Schwarzy, non ?
C'est qui présente l'émission là ? C'est qui anime Thibaut ? Je voudrais juste savoir.
Tu te calmes.
Tu te calmes, Thibaut.
J'ai postulé et.
Tu l'as eu ou tu l'as pas eu le poste ?
Tu l'as eu.
Et ben voilà.
Je suis à Pôle emploi EPO et.
Et j'ai décidé que c'était l'heure de faire entrer en scène The King, le culturiste par excellence. Qui c'est, Thibaut? Non, c'est toujours pas toi.
C'est toujours pas moi. C'est pas Younes, c'est pas Chloé.
Allez, vas-y, Thibaut, tu voulais nous en parler? Parle-nous de l'enfance du petit Arnold.
Alors, Arnold. Allez. Arnold, il est né le 30 juillet 1947. On va faire chaque année.
Chaque
2021.
Mois.
Chaque mois.
Donc, son
en Autriche.
Il est autrichien, exactement. Son père était un soldat de l'armée autrichienne. Éducation de Schwarzy qu'il décrira comme un peu dur
un peu strict
maintenant il dit des sévices, enfin qu'on considère ça comme des sévices, mais qu'à l'époque c'était une éducation un peu stricte effectivement.
Oui, mais c'est vraiment des sévices, enfin tu t'es tapé dessus avec la ceinture, je pense qu'on peut parler
l'idée
de sévices.
C'était de rentrer dans le rang et de se faire défoncer la gueule et de pas être un individu, quoi, d'être dans la masse, quoi.
Ouais. Et lui, c'est pas ce qu'il veut, le petit.
Non.
Et non,
il veut se cultiver individuellement.
Oh, oui. Il est un peu rebelle.
Oui.
Quand on le frappe, il dit non, on n'a pas le droit de me faire ça. Et il raconte que relativement tôt, il a dit ça. Donc il comprend que c'est pas tout à fait normal de se faire déglinguer. Il essaie un bon nombre de sports, comme plein de gosses de son âge, entre 10 et 15 ans. Mais c'est vers 13 ans qu'il va découvrir la musculation grâce à son entraîneur de foot.
Et
ça, c'est drôle. Très vite, au final, il va devenir adepte, accro à ce sport.
Et ce qui est surtout intéressant, c'est que dès cet âge-là, en fait, un peu, il dit qu'il veut devenir célèbre, il veut devenir riche, et que ça va être par le culturisme et ensuite par le cinéma. Et il a en fait d'anciens sportifs qui sont devenus acteurs en tête, Rec Park, Steve Reeves.
Bah, ça se fait depuis longtemps et ça se fait encore pas mal aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça arrive souvent d'avoir besoin de certains physiques pour des rôles précis, et du coup bah, tu vas taper directement là où il y en a plein.
Dans les films d'aventure, les films d'action, ça a toujours existé depuis l'âge d'or d'Hollywood.
Après, voilà. ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, quand Schwarzy fera du cinéma, on allait chercher des culturistes pour les amener au cinéma parce qu'on avait besoin de ces physiques-là. Aujourd'hui, tous les super, enfin, il y a beaucoup d'acteurs, tous les super-héros, en fait, vont se muscler.
Ils passent tous à la transformation physique.
Exactement, pas forcément sur le long terme.
À l'époque, on prenait soit des sportifs, soit des culturistes.
Ouais.
On a pris notamment Johnny Westmiller, qui était un champion de natation.
Tarzan. Ouais.
Pour jouer Tarzan.
Ouais, mais c'est assez fou. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu que tous les super-héros aujourd'hui, quand on va sortir un Avengers, un Batman, etc., et ben parfois, t'as des programmes de sport, genre comment toi aussi de faire ton physique de Superman, etc. Thibaut, allez, on y va. Allez, descends.
C'est vrai que
Thibaut, tu le sais.
J'ai envie de voler de mes
le
propres
prochain
ailes.
Nolan, Thibaut, bon. Tu peux.
Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit,
Arnold.
Il a du tempérament. Rapidement, il se dit, bon, voilà, c'est pas normal de me taper.
Il reste
quand il
positif,
dit, je veux faire du culturisme. Eh ben, évidemment, son
qu'est-ce
père voit ça d'un mauvais œil.
Son père,
il dit,
Gustave.
Non, fais pas ça. Il s'en fout. Il se construit sa petite salle chez lui et il dit, non, mais moi, je ferai ça, en fait. Donc, on voit que c'est un gamin qui a du tempérament. Et ça va se voir très vite quand il va commencer les compétitions. Il va être très fort. Il va terminer dès 15 ou 16 ans, deuxième d'une compétition mineure de muscu en Autriche. Enfin, bref, c'est, il est sur.
Il s'est forgé un caractère à ce moment-là, en fait, parce qu'il est face à l'adversité, notamment celle de son paternel, le fameux Gustave. Et effectivement, dans
à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une blague derrière le Gustave.
C'est
mais
vrai, non, mais
il n'y en a pas de blague.
Il n'y en a pas, non.
Il n'y a pas de blague. Okay.
Il essaie de faire un truc sur le lait entier ou les œufs au plat.
Mais ça va venir, t'en fais pas. Ça va,
ça peut venir.
Ça va, ça va venir. Ouais.
Maintenant que j'ai fait la sèche. Et donc, après, hop, champion d'Europe.
Et oui, bravo.
Ah oui,
bravo. Et surtout, il va faire une rencontre importante pour lui dans les années 60. Ouais. Chloé, est-ce que tu veux nous en parler?
Avec sa mère.
Avec Franco Colombo.
Ah voilà, parce que je me disais, il y en a plusieurs en fait dans cette période-là où il rencontre Joe Wider, c'est un peu dans cette période-là
c'est
aussi
vrai.
Qu'il va le rencontrer. Et effectivement, il rencontre donc l'Italien Franco, alors Colombo. On parle là-dessus. Donc qui de base est boxeur, mais qui va commencer à s'entraîner en salle avec Arnold, qui va, je pense, être beaucoup inspiré par la volonté et la motivation d'Arnold. Et il est aussi chiropracteur, donc c'est toujours pratique d'avoir un chiro, ostéo dans ses potes. N'hésitez pas, vraiment.
Ça va être un peu son frère ennemi suite.
Son frère ennemi, mais aussi son partenaire d'entraînement, un vrai moteur.
C'est une sorte de sidekick un petit peu. Mais effectivement, c'est une rencontre hyper déterminante, puisque finalement, ils font toute leur vie ensemble à partir du moment où ils rencontrent pour la première fois. Mmh. Et du coup, effectivement, c'est ce que je disais. Moi, je n'ai pas rencontré mon Franco Colombo dans la salle.
Et du coup, c'était Thibaut.
Voilà.
Et moi.
Et on s'est raté.
On va à la salle demain, Younes.
Ouais, quand elles réouvriront.
En tout cas, donc tu l'as dit, Thibaut, il va remporter Mister Europe, ce qui est déjà
pas mal.
Et donc, le prochain objectif, c'est Mister Universe. Et là, malheureusement, il va finir que deuxième derrière Chester Yorton pour la première fois. Il va devoir attendre une année de plus pour être enfin.
Mais ça, c'est important parce
Monsieur
que
Univers.
Arnold, il aime pas perdre.
Bah ouais.
Ça, ouais. On l'entendra tout à l'heure.
Et ouais, ça, on va l'entendre, ouais.
Mais il a besoin d'être. On peut le dire aujourd'hui sur le devant de la scène, sous le feu des projecteurs. Enfin, il a besoin d'être au centre de tout. Il est hyper positif, il parle à tout le monde, il est pote avec tout le monde, il conseille tout le monde. Donc, il a besoin de cette place de premier.
Il veut être le mentor.
Oui, oui.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que à la fois, on va voir qu'il a une personnalité pas forcément très sympathique, un peu genre tout écrasé sur. Enfin, faut toujours être un gagnant, faut être un winner. Si tu veux, tu peux, etc. Et en même temps, c'est vrai que lui, cette mentalité-là, c'est ça qui l'a fait devenir, ce qu'il a forgé. Et donc,
comme Guy.
Donc, il va remporter Mister Univers, mais Mister Univers amateur, en fait. Et c'est qu'en 68 qu'il va gagner un premier titre professionnel européen de Monsieur Univers et qu'il est repéré donc par Joe Wider, qui va l'inviter à aller aux États-Unis. Et c'est donc, pour le petit Arnold, l'heure du grand départ, l'heure de traverser l'océan Atlantique pour devenir ce qu'il va devenir, hein, un grand culturiste et acteur américain. Mais pendant qu'il traverse l'Atlantique, je vous propose de faire notre petite pause musicale.
On dirait qu'il y a une promo sur les slips.
Ce soir, dans FIP, nous avons écouté Pumping Around d'Andrew Lloyd Webber. Pendant ce temps, Arnold a traversé l'Atlantique.
Et ouais.
Ça y est, il est aux États-Unis.
Il est devenu Arnold Strong.
Oui.
Oui.
Il est américain, donc.
Il est américain. Oui. C'est le plus fort. Non, pas encore. Pas tout à fait.
Non, pas encore. Et donc, c'est le début de sa collaboration avec donc, Joe Wider. On en a parlé tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez, c'est lui qui a créé la Fédération internationale. Avec son frère, exactement. C'est lui qui a créé Mister Olympia. Et c'est lui aussi qui a mis en place quelques routines d'entraînement. Vous voulez m'en citer quelques-unes? Les vôtres, peut-être? Vos routines d'entraînement ou pas?
Bah ben... Moi, c'est du yoga pilates. Donc, en ce moment, je vais
non,
pas.
Non, non, mais vas-y, Thibaut, il est chaud. Ses routines.
Moi, mes routines d'entraînement.
Ouais, la première.
C'est.
Celle dont tu me parles tout le temps.
Celle dont je. Ouais. Ça me gêne un peu.
Non, mais vas-y.
Il y a des mineurs qui nous écoutent.
Ah, alors, non, je suis toujours nu. Voilà, c'est ça. Ma routine d'entraînement, c'est de toujours être nu pour commencer.
Très bien.
Qu'est-ce qu'il a comme routine d'entraînement?
Les tensions, la mise sous tension, comme tu.
Principe de tension continue.
Tout voilà. Ce qui, pour nous, paraît être un peu naturel, en fait, c'est des choses qu'il va mettre en place. Où on va tirer pendant longtemps sur quelque chose, puis relâcher. Ou alors faire.
Exploiter ce qu'on appelle la phase négative de l'effort, c'est-à-dire le relâchement. Voilà.
Ouais,
en fait, à ce moment-là, il ne faut pas se relâcher, il faut justement se concentrer.
Ouais, voilà. C'est continuer une série au-delà de l'échec musculaire après avoir réduit la charge. Quand on le dit, ça ressemble vraiment à des sévices.
À le faire aussi, c'est comme des sévices. Hein.
C'est pas loin. Mais il y a un résultat à tout ça.
On est beaucoup dans
le résultat, c'est que derrière, t'es à combien, toi, Younes, de circonférence de mollet?
2,5.
Il est à 50,8. Tu vois, c'est pas mal.
Au top, c'est pas mal. À l'apogée, ouais.
Ce qui est marrant, c'est que 50,8, en le disant, je me rends compte que je crois que c'est la taille de tout le micro avec l'extension qu'on a mesuré pour s'acheter une nouvelle validette pour OPO. Et on s'est dit, ça fait à peu près 50 cm. C'est vrai.
Oui, mais c'est autour.
Ouais, c'est vrai. Mais je me suis quand même dit, c'est énorme. Non, mais bref.
La cuisse, 72,4 cm.
Rendez compte.
Ça fait un beau jambon. Ouais.
Et la poitrine, 144 cm.
Ouais. Oh, moi, c'est monstrueux. Moi, c'est du 95C, mais bon.
C'est négatif.
Le rêve.
C'est parfaitement faux.
Bon, c'est des dimensions qui sont surhumaines.
Bah
donc,
oui.
Il est surhumain, donc il ne gagne pas son premier Mister Univers américain. Il finit deuxième, c'est quand même pas mal.
C'est Frank Zane qui gagne en premier.
Pourquoi il gagne Frank? Parce qu'il est considéré comme plus souple, plus gracieux que petit Arnold.
C'est marrant. Ouais.
Mais ça va lui servir de leçon.
Oui. Ouais. Et en tout cas, après ce premier Mister Univers américain, Joe Wider va accepter de le sponsoriser, en fait. Et en échange,
Arnold va devenir français, il a décidé de rentrer en France et il déménage à Dijon. Et là, à Dijon, c'est une toute autre carrière qui commence.
Il va prêter son nom et son visage à des fins publicitaires à Joe Wider parce qu'il a déjà une petite notoriété tout de même.
Oui. Arnold Franck surtout... pour les marques de moutarde.
La moutarde qui monte au nez.
Exactement. On l'a pas assez dit.
On le dit pas assez, ouais.
Et non. Il va s'entraîner où? En Californie.
À Dijon. Ah non, en Californie. Non.
Au Gold Team.
Et là, son but, c'est clairement devenir le meilleur. On l'a dit, deuxième, pour lui, c'est pas acceptable. Il veut devenir Monsieur Olympia.
Exactement. Et j'aimerais, Thibaut, je sais que je te coupe, j'aimerais justement qu'on écoute Arnold lui-même nous parler de dépassement. Comment est-ce qu'on devient le meilleur? Il n'y a que lui qui peut nous en parler.
Inspirez-vous.
Vraiment. Inspirez-vous, les enfants.
Le corps a du mal à dépasser, disons, la 9e, 10e, 11e et 12e répétition avec un certain poids. Après, il gonfle. Et le fait de dépasser le seuil de la douleur, d'avoir mal dans ses muscles et de continuer sans arrêt jusqu'à ses 3 ou 4 répétitions supplémentaires force le muscle à gonfler. Et c'est cet écart qui fait la différence entre un champion et celui qui ne sera pas. Si vous vous dépassez, vous avez une chance d'être un champion. Sinon, il vaut mieux laisser tomber. C'est ça qui manque le plus à la plupart. Le courage de se défoncer jusqu'au bout en se disant « je me fous de ce qui peut se produire ». Croyez-moi, ça fait mal. Et même si je m'effondre, je n'ai pas peur de m'évanouir dans un gymnase parce que je sais que ça peut arriver.
Ah, moi, j'ai pas peur.
J'ai vomi souvent à l'entraînement, mais je m'en fous.
Comme Chloé.
Comme Chloé.
But it doesn't matter.
Moi, mon, it doesn't matter. Moi, mon problème, c'est souvent la 11e répétition.
Et ouais, mais voilà.
Avant, ça va.
Et ben, tu ne seras jamais champion.
Moi, je trouve que c'est quand même des discours qui font un peu peur. Hein.
Bah, y a
un peu terrifiant.
Oui,
mais
y a,
bon.
Il y a un côté, bah, le sacrifice absolu, quoi.
De... C'est dit de manière très froide à chaque
ouais,
fois.
C'est
C'est-à-dire
ça.
Que c'est répété. On a l'impression qu'il est en train de découper un bœuf vivant au moment où il te le raconte. Quoi.
Et puis, c'est un peu cette croyance qu'en fait, tout ça, c'est dans la tête et que si on voulait, on le pourrait tous. Et je suis pas sûre qu'en fait, on pourrait tous aller à cette 11e répétition avec 200 kilos dans les mains.
Oui, mais...
Et en fait, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux socialement, mais physiquement non plus. Voilà, je voulais vous le
non,
dire.
Non, mais c'est vrai. et c'est difficile de savoir où est la limite. En fait, je ne sais pas si ce serait un coach génial ou affreux, parce qu'en fait, il a l'air d'être si dur. Il considère que ça, comme tu dis, c'est possible pour tous au final. Mais ouais. C'est ce qui pousse chacun à aller plus loin et à dépasser ses limites.
Mais c'est là où est peut-être la vraie limite du culturisme. Là où dans d'autres sports, bah, t'as des distances, t'as des poids, t'as des moyens de pouvoir dire donc là t'arrives à ta limite. Mais là en fait, dans ce sport-là, la limite c'est ton mental. Finalement.
Ça peut-être. Rapproche très vite cet art ou ce sport finalement l'identité américaine quelque part.
Oui, un peu.
Donc finalement, il trouve sa place en Californie.
Oui, c'est assez logique.
Ouais. Plus qu'à Dijon. Et c'est dommage.
Et c'est dommage, il a raté une carrière.
Pourtant, la moutarde se vend bien.
Non.
Alors, en 69, qu'est-ce qui se passe? Première tentative de Mister Olympia pour Arnold. Il va être en finale face à un certain Sergio Oliva. Ça se passe comment?
Le mythe. Donc, c'est pas n'importe qui, Sergio.
C'est le mythe. C'est le mythe.
La mythe.
Sergio, alors le mythe, c'est 111 kilos pour 1m75, des épaules larges, une taille si fine. Ah. C'est un Cubain incroyable. Et c'est le premier athlète noir à remporter les titres de Mister America, Mister Monde, et Mister Universe et Mister Olympia trois fois.
Et oui, et pour cette année 69, le petit Arnold, bah malheureusement, il va finir seulement deuxième, trois points pour
loser.
Lui. Loser. Mais, ce sera sa première et sa dernière défaite à Mister Olympia, car dès l'année suivante, donc on est en 70, les rôles s'inversent. Et c'est Oliva.
Le dauphin.
Exactement.
Il arrive après Arnold.
C'est un dauphin ?
Oui, mais c'est pour ça. Et on l'a pas
transformé
dit,
en
c'est des compétitions animaux versus
Ah oui, c'est une mixité absolue.
Et donc, Flipper termine deuxième. C'est notre ami Arnold qui est champion du monde, enfin, Mission Olympia. Il a que 23 ans, vous rendez compte ? Qu'est-ce que tu faisais, Younes, à 23 ans ?
Pas ça, en tout cas.
Ouais, pas ça.
Non.
Vraiment.
Moi, c'est plutôt que 23 ans, c'était il y a 10 ans, et là, ça fait mal. Voilà.
Et, oui.
Voilà, pardon, excusez-moi.
Alors que pour Chloé, c'était dans deux ans.
Et je sais déjà pas quoi faire de ma vie. Hein, donc.
Oui, mais justement, t'as le temps de trouver. Alors que nous, c'est fini, on a déjà raté nos vies.
Et Arnold, lui, il n'arrête pas sa vie.
Et
parce
non.
qu'il est
et
champion non. en 70, mais en 71, qu'est-ce qui se passe? Rebelote.
Champion à Paris.
Et allez, champion à Paris.
72.
Champion où?
C'est pas écrit dans les notes, 73, encore champion.
Donc ça commence à être sérieux. On se dit, le mec, il est champion tous les ans.
Il lâche rien.
Ouais, ouais. En 74.
Qu'est-ce qui se passe en 74?
Il est champion aussi. Il va faire face à quelqu'un dont on reparlera tout à l'heure. C'est Lou Ferrigno.
C'est Loulou.
C'est Loulou.
Oui, Lou. C'est qui Lou?
C'est un mec qui est super grand.
C'est un mec qui fait 1m95. Ouais. Le plus grand adversaire de Schwarzy.
Et là, surtout, on commence à se dire.
Et surtout, il
incarne. Il est trop mignon.
Il incarne. Dans la fiction, l'incroyable Hulk.
Ah,
oui, aussi.
Série télévisée des années 70.
Incroyable.
Et effectivement, il est le premier visage télévisé de l'incroyable Hulk, héros Marvel.
C'est incroyable parce qu'on va en parler, je pense, un petit peu après, mais Lou, c'est la douceur.
Ah, bah, c'est un agneau.
C'est 1m95 de douceur et de
naïveté,
sais pas,
un peu.
Si j'ai ma place ici, je sais pas.
C'est pour ça qu'il est que troisième.
Sa première tentative,
ouais,
t'inquiète.
C'est vrai.
Bon, en tout cas, 70, 71, 72, 73, 74. Si mes comptes sont bons, ça fait 5 victoires. Et là, la rumeur circule.
C'est quoi la rumeur? Il est dopé? Ah non,
ça faisait longtemps.
Il est claqué.
Ouais, il est claqué,
il en a marre.
Il va peut-être partir, il va peut-être arrêter le chêne autrichien.
Ouais. Mais une petite proposition finalement intéressante et peut-être juteuse aussi va se présenter à lui pour ne pas arrêter tout de suite, c'est de faire un documentaire et de préparer le prochain Mister Olympia, donc celui de 75, sous l'œil des caméras de George Butler et Robert Fior pour un docu-fiction, on va dire, parce que si vous le regardez, on vous le conseille, Pumping Iron, c'est quand même un peu mis en scène, mais ça va suivre ce Mister Olympia et le Mister Univers de 75.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il est... si vous avez envie, n'hésitez pas, il est disponible sur Dailymotion, peut-être sur YouTube.
On vous mettra peut-être le lien.
On vous mettra peut-être le lien dans 4 ans, ouais. On verra. Mais n'hésitez pas à le regarder, mais c'est pour ça sûrement que Schwarzenegger a l'air si détendu. Et c'est pour ça qu'il se permet de taquiner un petit peu les jeunes recrues.
Alors ça, c'était la drogue qu'il consommait.
Non, mais ça joue aussi, je pense.
Il est dans son rôle de... Il est dans un rôle de toute puissance, en fait. Ouais. Il t'explique que tout se joue non seulement dans le physique, mais aussi dans le mental.
Au mental, surtout. Et puis
il y a vraiment une arrogance forte.
Il démolit littéralement les adversaires, en fait.
Ouais, et il leur ment. Il n'y a pas un moment où
il cache le t-shirt, il mitonne sur des trucs.
Il donne des faux conseils.
Il apparaît clairement comme une fripouille. Et il fait le jeu, en fait, il fait la compétition. Et en même temps, sa présence crée la compétition, puisque finalement, elle crée la médiatisation autour de son retour.
Il fait la compétition, ça veut dire, en fait, tout tourne autour de lui.
Ouais, exactement.
C'est vrai. Donc, il a déjà gagné avant que ça ait lieu.
Et donc, ça va notamment suivre, en fait, sa compétition, sa rivalité face à Lou Ferrigno. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, Schwarzenegger, il est présenté comme... Il s'entraîne, mais il donne un peu des conseils en même temps avec ses potes, etc. C'est vraiment le mec accompli. Alors que Lou Ferrigno, lui, c'est son père qui le coach. Il se fait tout le temps taper sur les doigts. Il se fait tout le temps engueuler par son père.
C'est des opposés à 1000 degrés, quoi. Enfin, t'en as un qui est vraiment un esprit libre et t'as l'autre qui... Enfin, c'est ça qui est hyper touchant, je trouve, avec Lou Ferrigno. C'est qu'il est immense, il est terrifiant, ses muscles sont incroyables. Et en même temps, c'est son... père là qui est pas hyper grand, qui est là genre vas-y fais ci fais ça, oui Arnold il a fait ci, et du coup et lui il est tout d'accord.
Et il y a clairement en fait un rapport au père, l'un s'est complètement émancipé en fait de son père
et
très très jeune
tout,
et l'autre est encore sous l'emprise entre
guillemets.
Et le fantasme du père qui s'accomplit à travers l'enfant alors que l'autre a clairement tué le père, hein.
C'est beau ce que tu dis, Younes. J'ai besoin d'une petite thérapie, je peux
allonge-toi sur le canapé.
Et notre petit loup donc il terminera que troisième de cette compétition.
Il est brisé, le petit loup.
Il a beau avoir 15 kilos de plus au compteur.
Il y a une scène incroyable dans le documentaire où quand il s'entraîne et qu'il arrive à la limite, ensuite, il recommence à pousser la barre et il crie « Arnold ! Arnold ! Arnold ! » à chaque répétition pour se donner du courage. Enfin, c'est
assez mythique, ouais, effectivement.
Et donc, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est qu'en fait, alors je sais pas si c'est encore actuellement comme ça, peut-être pas, mais à l'époque, en fait, le jury prend ses décisions la veille de l'événement public, en fait. Il y a déjà un premier passage où ils passent tous ensemble pour être comparés, et ensuite les uns après les autres, mais le jury décide la veille, au calme, de comment il va attribuer les points. Et le lendemain, on va dévoiler les résultats devant le public.
C'est un peu comme une compétition de cinéma, finalement.
Ouais, c'est vrai.
On a déjà les résultats, mais on fait un show télévisé retransmis pour pouvoir faire en sorte de partager l'événement. Mais les rumeurs sont déjà là. Et puis, on confirme seulement publiquement, en fait... l'enveloppe, en ouvrant l'enveloppe cachetée devant tout le monde.
Est-ce que le cinéma est un sport, du coup?
Non, mais par contre, je pose la question, est-ce que le culturisme est un sport?
On fait la boucle avec le début.
Moi, non, je pense pas. Absolument pas.
Je suis pas d'accord.
Patinage, boxe, haltérophilie.
Je vous ai pas raconté quand je faisais de la danse.
Attendez. Et donc, à l'époque, on a parlé qu'aujourd'hui, il y avait 4 catégories pour les hommes. À l'époque, en fait, il y en a 2. Il y a les moins de 92 et les plus de 92 kilos.
Ouais.
Arnold remporte encore une fois le plus de 92. Et c'est quelqu'un dont on a déjà parlé tout à l'heure, son petit pote Franco Colombo, qui va gagner chez les moins de 92.
La catégorie de Michael.
Et donc la catégorie de Michael. Et ils vont s'affronter pour la très grande finale.
Oui.
Mais avant ça, je vous propose d'écouter un petit portrait quand même de Franco. Rendons-lui hommage.
Oui. Franco Colombo, champion du monde des culturistes, catégorie moins de 92 kilos. 5 fois challenger pour le titre de Monsieur Olympia, qu'il espère ravir cette année à Arnold. Ancien boxeur, champion poids plume d'Italie, Franco est natif d'un petit village en Sardaigne. Quand les gens sont en colère ici, ils vous disent « va en Californie », comme ils diraient « va en enfer », parce que c'est un endroit où on a peu de chances d'arriver. Eh bien, j'y suis quand même allé en Californie. Alors maintenant, ici en Sardaigne, quand on me demande où j'habite et que je réponds « en Californie », les gens se demandent si c'est vrai ou si c'est une blague.
Le pauvre, il va perdre, il va toujours perdre face à Arnold.
Oui, mais après, on comprend leur amitié. J'ai l'impression que de toute façon, ils savaient que c'était un peu joué d'avance. Par contre, il est hyper touchant dans le documentaire.
Très touchant, ouais, mais c'est vrai. Aussi grâce à Arnold qu'il se met dans cette discipline aussi. Donc,
C'est un leitmotiv
et je pense qu'il n'est pas tant déçu que ça. Enfin, s'il doit perdre contre quelqu'un, je pense qu'à la limite, contre Arnold, ça doit aller.
Et donc, Schwarzy va encore une fois gagner le titre de Mister Olympia. Il y avait un peu, même limite, pas de suspense.
Ah bah oui, c'est plus un chêne, c'est une forêt autrichienne.
Exactement. Et surtout, en fait, ce documentaire va avoir beaucoup de succès et ça va vraiment participer à la popularisation du culturisme dans l'Amérique. Et puis, Arnold, ça devient vraiment une vraie star, quoi. Ouais, ça lui ouvre les portes, notamment du cinéma.
D'Hollywood.
De Hollywood.
Du coup, c'est pour ça qu'on a une certaine période où, du coup, il est un peu moins Hollywood. Présent sur la scène du culturisme
on
et
se
des
dit,
compétitions.
Cette fois-ci, c'est fini.
Il travaille sa carrière. Ouais.
Et oui.
Ouais. Et sa carrière de cinéma d'auteur. Et pourtant,
quelle mauvaise
il va
langue.
Revenir.
Ouais, voilà. Tel un happening sur Touche pas à mon poste. Ouais. Imprévu.
Ouais. Après les nouilles dans le slip, hop.
Ouais. Schwarzenegger sur scène de retour.
On est en 80 et il participe à une compétition sans forcément déclarer ça à l'avance.
Alors, ça, c'est beau parce qu'il s'entraîne très peu de temps, 8 semaines de préparation, ce qui est très peu.
Après, il sort du tournage de Conan le Barbare où il a fait quand même un peu de muscu, même si c'est pas au point.
À Conan le Barbare, globalement, alors, en termes de. Pour travailler ton rôle, c'est pas le cercle des poètes disparus.
On est
sur autre chose. Hein.
Alors oui et non, parce que justement, il a un maître d'armes japonais dans Conan le Barbare et il lui demande une certaine souplesse pour manier le sabre et il a dû perdre du muscle.
Pour
avoir justement un peu plus de souplesse qu'il n'avait pas forcément.
Il a perdu et pourtant.
Il vient pour gagner.
Mais non, il vient pas pour rien.
Et est-ce qu'il va gagner?
Alors ça, cette histoire est assez surprenante. Et là, j'ai envie de dire que ça sort un peu presque le culturisme du sport, finalement, où tu vois qu'il n'y a pas de règles carrées.
On fait ce qu'on veut.
C'est qu'en fait, voilà, limite, Schwarzy, il va revenir. Il va dire, ouais, je sais, je ne suis pas aussi bien qu'avant, mais je suis quand même Schwarzenegger.
C'est comme si au patinage artistique, on décidait de ne pas faire le triple axel et de dire, bah non, moi, je ne le fais pas parce que je suis Arnold Schwarzenegger.
Et je suis meilleur.
Et puis, bah, vous allez me juger sur ma musique et sur les postures que je fais.
Voilà. Et on lui reproche de montrer qu'un côté ou de pas faire certaines postures. Enfin bref, il est assez critiqué.
Il braque littéralement la compétition.
Mais il s'en fout.
Ouais.
Et ça marche.
C'est un hold-up.
Il gagne. Et Frank Zane dira, pendant l'Olympia de 80, Arnold n'a présenté donc qu'un côté de son corps, a défié les demandes des juges. À la fin, ils lui ont permis de le faire. Et il est finalement devenu le gagnant. Si vous êtes en mesure de faire la loi, alors vous méritez la victoire. C'est beau.
C'est beau.
Je sais pas si c'est beau ou terrifiant encore une fois.
Alors, moi, je trouve que c'est une parole qui, effectivement, est terrifiante, mais quelque part c'est aussi les paroles de quelqu'un qui est un beau perdant et qui décide de se dire ok, le mec a tordu la loi, c'est la loi, lui-même représente la loi, donc
il est la loi Arnold donc, est la loi, ouais,
et
c'est vrai.
Un peu bon, voilà, mais en même temps ça me fait peur.
C'est vrai que c'est un peu tragique quand toi tu as vraiment passé ton année à te concentrer sur cette compétition que t'as suivie à la lettre absolument toutes les semaines, chaque étape qu'il fallait faire, et t'as le vainqueur des 5 dernières années qui débarque, qui dit oh, j'avais rien d'autre à faire en ce moment, je vais tenter la compétition, et qui repart sans visiblement avoir reçu du coup les mêmes critiques que les autres.
Ça montre que l'aura de Schwarzy dépassait en fait cette discipline.
Après, d'autres sports, on favorise certains parcours, notamment je pense au tennis, avec le fait de ne les faire rentrer que dans une dernière phase de la compétition. On protège. Schwarzy, c'est autre chose.
Il est pas vraiment passé par là, mais.
Là, on parle quand même il n'a pas présenté tous les côtés. C'est comme si Nadal, il avait mordu et qu'on dit, bon non, c'est Nadal, du coup, ça passe, tu vois.
C'est vrai.
C'est là où je trouve ça un peu injuste.
Non, c'est de la triche.
En tout cas, Schwarzy, il laisse son empreinte bien au-delà
des morsures.
Des années 80. Il va créer certaines compétitions, la Arnold Classic.
Columbus.
Exactement.
Dans l'Ohio.
Et oui. Enfin voilà, en tout cas, il reste une figure forte de ce monde. pour conclure ce petit épisode, je vous propose d'écouter Jean-Jacques Courtine, qui est un anthropologue. C'est aussi un extrait tiré du documentaire d'Arte. Et c'est sur, finalement, la démocratisation de la musculation qui continue hein, encore aujourd'hui. Je pense qu'on peut le dire.
Maire de Dijon, Jean-Jacques Courtine aussi, non ?
Oui.
Et apparemment, il adore la moutarde. Écoutez.
Il y a une tradition très ancienne d'Hercule de Foire, hein, qui soulevait des poids, qui accomplissait des exploits physiques dans le contexte des foires européennes de jadis. Il y avait l'homme éléphant, la femme araignée et l'Hercule à côté. Ce qui est intéressant, si on regarde ça dans une durée un peu plus longue, c'est de voir que cette étrangeté-là s'est réduite. Hein, elle est devenue une sorte de norme. Mais le muscle s'est quand même généralisé, je trouve, démocratisé en quelque sorte. Il a franchi la barrière des genres. On imagine maintenant mâle ou plus difficilement qu'auparavant, des corps, y compris féminins, totalement dénués d'une aura musculaire. La communion de cette culture du muscle est variable et différente selon les individus qui composent la société en question, mais elle s'impose comme image à tous.
En tout cas, le muscle s'est démocratisé. Ouais. L'industrie du muscle, ça rapporte.
L'image même du corps dans la fiction a changé. Quand c'est tu vrai. Regardes un film des années 70 ou un film des années 80 et que tu regardes aujourd'hui un film d'aujourd'hui, bah, clairement, les héroïnes et héros n'ont pas du tout le même physique.
Si avec ça, on ne trouve pas un partenariat avec une salle de sport,
exactement.
Vraiment, si elles sont ouvertes, pourra dire non, qu'on n'aime pas du tout le bodybuilding.
Et tout ça, non, mais ça s'inscrit quand même dans un modèle aussi un peu individualiste, hein, où chacun doit prendre soin de soi, de son corps. Chacun, encore une fois, est maître de pouvoir
se sculpter.
Un destin. Et se façonner. Voilà.
Et ce dépassement aussi, Chloé parlait du crossfit, mais plein de gens qui font du crossfit parce qu'ils veulent se dépasser dans le boulot, ils veulent se dépasser de la même manière dans les à côté. Et il y a quelque chose aussi d'un peu terrifiant parfois. Alors, c'était pas ton cas quand tu l'as fait, hein, sûrement pas, mais c'est ouais, ce dépassement dans tout ce qu'on fait en fait.
Bah ouais, et puis même je trouve que le sport s'auto-dépasse. Enfin, on disait tout à l'heure que si on comparait les idoles de Schwarzy à lui-même, c'était déjà ridicule, mais si on regarde aujourd'hui les mecs qui font Mister Olympia, Mister Univers, ou qui font les compétitions de Schwarzenegger, c'est incroyable. Enfin, moi, je suis assez curieuse de voir l'évolution de ce sport parce que j'ai l'impression qu'on arrive déjà quasiment aux limites du corps.
J'espère.
Mais ça s'arrête pas. Mais ouais, et du coup, donc, on avait dit, donc, Schwarzy a fait, sa compétition qui est notamment en Ohio, mais pas seulement, puisqu'il y a une compétition en Europe, il y a une compétition en Asie, il y en a un petit peu partout. Et on a dit que ça rapportait aujourd'hui, enfin, en 2020, du coup, on compte 55 000 salles de fitness en Europe. Seulement en Europe.
C'est énorme, ouais.
Et 60 énorme. Millions de pratiquants, et l'industrie rapporte environ 27 milliards d'euros par an. C'est
colossal.
Un business incroyable.
C'est clairement colossal.
Ouais, on va être lancé. On va créer une salle de sport.
Je crois que ça peut être pas mal.
On va l'appeler EPO.
EPO Sport Club.
EPO Fit.
Ça va vachement attirer.
Des suppléments alimentaires comme Schwarzenegger au début, on fait ça.
Exactement.
EPO, je pense que ça va se vendre.
Non, mais le culte du sport, du corps et du sport et l'évolution... va avec en effet ce modèle individualiste qui se répand totalement. Ouais.
Mais c'est autant du coup un travail du corps qu'un travail du mental, et je trouve que c'est des sportifs qui sont assez impressionnants pour ça.
C'est
et
vrai.
Si on arrive à faire découvrir un peu ce sport ou donner envie de ne serait-ce que regarder des documentaires dessus ou se renseigner.
Bah ouais, c'est intéressé. Moi j'ai trouvé ça très intéressant.
Tout à fait.
Eh bien merci à tous, c'est l'heure de l'antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping, donc il fallait faire la petite chose.
Magnifique.
C'est toi, Younes, qui t'y colle aujourd'hui. Oui. On t'écoute.
Alors, qui connaît autour de cette table Riva Steenkamp ?
Ouais.
Ah. Chloé, dans ton micro, si tu veux dire oui.
Alors, je croyais que tu avais coupé les micros.
Et non,
alors,
et non,
sauf Chloé, vous ne connaissez pas, mais Chloé, visiblement, si. Ce nom, malheureusement, n'évoque pas grand-chose aujourd'hui. Et pourtant, Riva a fait la une des journaux dans le monde entier. Alors, spoiler alerte. Ce fut le jour de sa mort.
Oh non, le pauvre.
C'est pas bon, ça.
Non, malheureusement, le nom de son assassin a pris plus de place dans nos mémoires et cette affaire a choqué par son sordide.
Henri IV.
Ah, pas loin, pas loin.
Presque.
tu t'y es dit.
C'est plus au sud.
Voilà. Pourtant, dans cet anti-doping, je vais essayer, dans la mesure du possible, de faire que cette personne imprime chez vous un souvenir, quelque chose d'un peu positif.
Un hommage.
C'est un petit hommage. Voilà. Riva est supermodèle sud-africaine. Donc,
D'accord.
Voilà. On commence un peu à se réchauffer.
Ouais.
Sa profession fait d'elle une personne très populaire en Afrique du Sud, pays d'où elle est originaire. Pourtant, au départ, elle s'oriente dans des études de juriste et fréquente l'université Nelson Mandela. Elle obtient un bachelor, donc plat du pied, sécurité, dans la mesure où elle n'était pas très certaine de faire une carrière de mannequin qui s'offre à elle. Son entourage bienveillant lui dit « Bon, bah, quand même, fais des études avant et puis on verra peut-être après. » Donc, à 15 ans, elle gagne un concours de beauté et commence très rapidement en fait, à faire quelques photos. Mais néanmoins, elle poursuit ses études et commence à travailler comme assistante juridique. Lors de sa dernière année d'université, elle subit malheureusement, et là c'est peut-être un petit virage, une fracture de la colonne vertébrale consécutive à une chute de cheval.
Oui.
Une bête de course qui appartenait à son père. Après un long rétablissement, elle décide d'abandonner le droit pour s'engager dans une carrière de mannequin. Finalement, elle se dit « Bon, je veux faire ce que j'aime de ma vie et je vais à fond dans le truc ». Très vite remarqué.
Et finalement, façonner son corps.
Exactement.
Pas de la même manière qu'un culturiste, mais de devoir respecter des normes.
D'avoir des normes qui sont des contraintes pour pouvoir répondre à des canons, un peu comme nos culturistes juste avant.
Tout à fait.
Très vite remarqué, elle fait la couverture d'un magazine pour hommes et fait la rencontre d'une autre célébrité. Ah. Celui que l'on surnomme, et là Thibaut va savoir, Blade Runner.
Eh oui. J'avais compris.
Elle partage de son vivant la vie d'Oscar Leonard Carl Pistorius. Ben donc, qui est Oscar Pistorius?
C'était un sacré athlète.
Voilà. Ouais.
Je vais commencer par le docteur Jekyll, donc le côté positif de l'athlète, athlète médiatique et handicapé de naissance. Il fait oublier rapidement ce manque en égalant grâce aussi à un appareillage high-tech des performances de très haut niveau qu'il ouvre le circuit, et ça c'est assez étonnant, du circuit des valides.
Il faut dire qu'il n'a pas de jambes en fait. Hein, quand même.
Ouais, voilà.
Il faut le dire clairement.
Amputé sous les genoux. Exactement. Et il a deux prothèses en carbone qui lui permettent de faire de la compétition. Voilà.
Ouais. Impressionnant. Homme bionique presque.
Quasiment bionique, ouais, effectivement. Ouais. Homme amélioré, entre guillemets. Ouais. Impressionnant et inspirant même pour beaucoup d'athlètes dans le monde, même les valides en fait, applaudissent finalement son abnégation et sa force de caractère. Et en 2012, le Times, donc magazine américain, le classe parmi les 10 personnes les plus inspirantes. Et c'est aussi en 2012 qu'il officialise sa relation avec Riva, le couple de rêve pour les tabloïds.
Eh oui, mais.
Elle, de son côté, profite de la lumière de son couple pour présenter une émission de télé-réalité, un programme proche de notre Koh-Lanta national. Voilà. Hey. Le premier épisode est diffusé le 16 février 2013, 2 jours après sa mort. Ses parents ont insisté pour maintenir l'émission afin que tout le monde se rende compte du gâchis et que tout le monde puisse se souvenir d'elle.
C'est triste.
Et ses derniers mots sont terrifiants. Elle dit « Vous allez tellement me manquer ». Voilà les mots post-mortem qu'elle prononce à la fin de l'émission en dirigeant un baiser en direction des téléspectateurs. Les adieux de la jeune femme filmés pour les besoins de ce programme à grande écoute où s'affrontent des candidats plus ou moins célèbres avant leur élimination successive ont pris un tour particulièrement poignant 2 jours après sa mort, provoqué par 4 balles de 9 mm au domicile de Pistorius. Le jour du drame, elle aurait été tuée alors qu'elle était aux toilettes, selon le quotidien Afrikaner Bild, qui indiquait déjà vendredi que Pistorius avait tiré à travers la porte de la salle de bain, une information non confirmée à ce stade, au moment où l'Afrikaner Bild le déclare. Bon, l'antidoping est trop court pour développer l'ensemble du procès. Mais
ce sera peut-être un EPO un jour.
Ça a été un épisode fleuve, ce procès qui a duré plusieurs années. Il passe par différentes étapes et rebondissements, mais pour faire court et dans les grandes lignes, l'inculpation de départ caractérise la légitime défense durant la première sentence. Scandale. Mais le juge Eric Lisch donc, décide de rejeter l'idée de légitime défense et a également affirmé que l'identité de la personne derrière la porte ne changeait rien. Il a aussi rappelé que la victime n'avait nulle part où se cacher et que les tirs allaient forcément l'atteindre. Le juge Lisch a poursuivi en déclarant qu'Oscar Pistorius savait très bien manier les armes et a rejeté sa vulnérabilité, qui avait été un argument important de la défense au moment où en fait, on a commencé à construire cette défense lors du premier procès. Pour Eric Lisch, le jugement en première instance s'est trompé dans sa définition du meurtre. Il n'y aura pas de nouveau procès, simplement une délibération. En Afrique du Sud, une condamnation pour meurtre, est de 15 ans minimum. La défense organise sa position et celle de l'accusé Pistorius autour des troubles anxieux remontant à l'enfance d'Oscar, susceptibles d'avoir contribué à son geste fatal pour Riva. Ainsi, l'homicide involontaire peut être mis au bénéfice de l'accusé Pistorius. Ils réussissent dans un premier temps quand même, mais les faits sont requalifiés en meurtre par la Cour suprême d'appel de Bloemfontein. Cette cour le reconnaît coupable de meurtre. Elle admet néanmoins qu'il n'avait nullement l'intention de tuer sa compagne et qu'il pensait tirer sur un intrus. Mais elle précise qu'il ne pouvait ignorer le risque de tuer en tirant à travers la porte d'un espace clos.
Oui.
Il aurait dû prévoir que la personne derrière la porte pouvait être blessée. Sur cette base, elle estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour homicide involontaire, mais pour meurtre. L'affaire est renvoyée à la juridiction de première instance, donc toujours pas de deuxième procès, mais la première instance, pour qu'elle revoie sa sentence. Et le 6 juillet 2016, Oscar Pistorius est condamné à 6 années de prison. Donc, très léger. Le 21 juillet, le parquet demande au tribunal de réexaminer cette condamnation car il la juge scandaleusement clémente et estime qu'elle ne respecte pas la peine plancher légale de 15 ans prévue pour le meurtrier débouté. Le parquet saisit la Cour suprême d'appel, encore une fois, de Bloemfontein qui lui fait droit et condamne Pistorius à 13 ans, 5 mois de prison, le 24 novembre 2017. Voilà, c'est une histoire un peu plombante.
Ah bah oui.
Elle est quand même... passionnante car c'est quand même digne d'un film noir et tristement populaire. Elle fait encore planer un certain doute sur le film de la soirée tragique pour Riva. Et c'est avant tout pour elle que j'ai décidé de faire cet anti-doping parce que elle est victime de cette histoire et on n'en parle jamais. Et donc voilà, c'était pour lui rendre un petit peu hommage.
C'est trop
beau.
Merci, on pense
Younes.
À toutes les Rivas.
Ouais. On pense à toutes les Rivas ce soir.
Exactement. Et ben pour finir sur une note positive, Thibaut, tu vas bien?
Bah, le culturisme c'est pas un sport. Je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, bah, on va se retrouver le mois prochain avec un nouveau sujet. Peut-être qu'Olivier reviendra parmi nous.
Ah bon?
On l'embrasse.
Reviens.
Et puis, bah, en attendant, pour patienter, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts de Fréquence Moderne.
Relire Tintin.
Exactement.
C'est mon préféré.
Culture 2000.
Eh oui.
Et 2 heures de perdu.
Oui, et 20 minutes avant la fin du monde.
Et 20 minutes avant la fin du monde.
Et puis, bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitter. Facebook.
Et nous mettre des super notes quand vous nous écoutez.
Ouais, nous mettre des super
5 étoiles, même 6, même si 8. Ça n'existe pas.
Même 8. Et puis, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Nous, ça nous inspire, ça nous donne des idées. Merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir.
Merci.
Merci à tous.
Et au mois prochain. Au revoir.
Salut.
The Peace. Niggas can't see. and visualize my debut. Niggas know me, play, I gotta stay true. Don't be a dumb motherfucker, cause it's crazy at the door. Let a true thug nigga see your heart. Niggas can't see.
Yo, check this out. Stay off his dick.
Niggas can't see.
Right before your eyes.
I know it's hard, nigga. I'm all up in your face.